15h sur Fréquence Mistral et c'est comme si vous y étiez au jardin. C'est l'heure de Radio Jardin avec Serge. Bonjour Serge.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui Serge, on commence tout de suite en parlant de l'arbre qui représente notre région, l'olivier.
Tout à fait. Un arbre chargé de symboles. D'abord l'olivier en nom latin, c'est l'Olea Europaea, famille des Oléacées. Un arbre d'espérance, de paix, de victoire, de force et de fidélité. Nous allons parler de la taille de l'olivier. Bon, je pense que la taille de l'olivier, il y a déjà beaucoup de personnes qui connaissent ça, surtout la taille de fructification, à ne pas confondre avec la taille d'ornement. Taille de fructification, les gens maintenant la taillent surtout en pleureur pour pouvoir ramasser les olives plus facilement, on va dire. Mais bon, le principe de taille est toujours de bien aérer le centre de l'arbre, surtout. Et après, en pensant à tailler les branches mortes, tout ça, et les branches qui s'entrecroisent, c'est très important. Et en pensant que c'est le bois de la deuxième année qui porte les fruits, surtout. Dans la taille d'ornement, on va être plus dans la taille esthétique. Il faut que l'arbre soit plus joli, donc on va tailler moins sévère, faire un arbre plus arrondi, qui soit plus joli à l'œil. Je pense que c'est plus important quand on a un olivier ou deux oliviers dans un jardin, de le tailler en ornement, en arrondi, en gobelet, c'est plus joli que si on le taille. Moi, je pense que quand on voit le tronc de l'olivier dans un jardin, c'est plus joli à l'œil.
Et alors, la grande question que tout le monde se pose, Serge, est-ce qu'il faut arroser son olivier ?
Il ne faut pas qu'il y ait trop d'excès dans les oliviers. S'il est tout jeune, oui, la première année, on va dire, on l'arrose une fois par semaine, pas plus. Moi, je pense qu'avant, les gens n'arrosaient pas les oliviers, ils étaient aussi beaux que maintenant. Hein.
Donc, c'est tout en fonction, tout en mesure, alors.
Voilà, tout à fait, oui.
Est-ce que, pour l'entretien, vous avez des choses à rajouter ? Est-ce que, à part la taille, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos oliviers ?
Alors, actuellement, il va falloir faire un traitement à la bouillie bordelaise, à 125 grammes pour 10 litres d'eau. C'est très important pour cicatriser les plaies après la taille, surtout, et pour les maladies aussi.
Et ça, la bouillie bordelaise, on l'applique sur le tronc ou est-ce que...
On la met sur le tronc, les feuilles, les branches, on la met de partout, en fait.
D'accord.
Et bien respecter les dosages, c'est très, très important.
Donc, répétez peut-être les dosages pour nos auditeurs.
125 grammes pour 10 litres d'eau, ni plus ni moins.
Donc, c'est bien précis, donc ne vous trompez pas.
Après, on va y apporter un apport d'engrais organique, 200 grammes au mètre carré, ça fait 4 poignées. En fait, il faut mettre ça plutôt dans l'aplomb des branches, pas le mettre directement au pied du tronc, c'est pas trop bon. Mettre donc 4 poignées et griffer le sol avec une petite griffe à 3 dents ou une binette, ça ira très bien.
C'est pour aérer le sol, en fait
Pour aérer le sol et pour incorporer l'engrais, en fait.
À la terre.
À la terre, tout à fait. Il y a un proverbe qui dit « Un arbre doit être beau si ce qui plaît à l'œil plaît à la nature ». Donc quand vous taillez votre arbre, s'il vous plaît, il plaît à la nature. Il faut qu'il soit beau esthétiquement. Quand vous taillez votre arbre, prenez du recul plusieurs fois. Vous vous mettez un peu loin, vous regardez les défauts. Et là, on arrive à faire quelque chose de bien.
Par contre, on va peut-être éviter les fantaisies. Donc, peut-être pas les tailler en forme, je ne sais pas, de tour du monde or, rester sur une forme arrondie quand même.
Oui, sur une forme arrondie, non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Quand on taille même une haie ou quoi que ce soit, toujours se reculer pour voir les petits défauts qui ne vont pas sur les arbres ou les...
Puis pour voir les éventuelles branches qui dépassent ou des choses comme
tout
ça.
Tout à fait, oui.
D'accord. Donc on change de perspective pour mieux mener à bien notre taille. On poursuit avec, cette fois-ci, le choix des arbustes pour notre région.
Alors, les arbustes de notre région, on en a pas mal quand même, qui s'adaptent très bien sur la région des Alpes de Haute-Provence. On a l'Eleagnus, un arbuste très sympathique dans le feuillage et dans le vert clair, un peu comme l'olivier, on va dire. Il fait une fleur odorante au mois de septembre-octobre, qu'on est insignifiante, on ne la voit pas, mais elle sent très très bon. Et en plus, c'est un arbuste qu'on peut bien travailler. Si on le met en isolé, on peut le faire en boule, il se travaille bien à la taille.
Et ça, on le plante plutôt à l'ombre ou au soleil ?
Ça se plante aussi bien à l'ombre qu'au soleil.
Ah, donc c'est pratique alors.
Et c'est un arbuste qui est très résistant au niveau de la sécheresse en plus.
Donc très adapté pour, donc, comme vous le disiez, à notre région.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut encore planter d'autre, Serge ?
Après, on va passer, on a aussi le laurier-thym, très sympathique, que tout le monde connaît, feuille verte qui fleurit actuellement, une fleur blanche. Pareil, ça aussi, ça se structure très bien. On peut faire des boules, on peut le faire en carré. On peut le planter en haie ou en isolé, comme je disais, pour les dernus aussi.
Et est-ce que ça peut couper du vent, les laurier-thym, par exemple ?
Oui, tout à fait. Oui, ce sont des laurier-thym, laurier-thym. On fait des haies avec qui peuvent monter jusqu'à 2 mètres et plus.
Oui, donc très bien pour les terrasses, pour se protéger pendant les beaux jours.
Oui, tout à fait. Après, on va passer dans le... Il y a le photinia aussi qui est très joli actuellement. Il est vert toute l'année, mais là, actuellement, il a un feuillage qui est rouge et il va commencer à fleurir, qui va faire une petite fleur blanche. Pareil, ça, c'est un arbuste qui peut se mettre en haie ou en isolé ou dans des bacs. Il est très joli, point de vue esthétique, c'est un bel arbuste.
Et il fleurit tout de suite, donc...
Là, il est en train de fleurir. Il va fleurir après pendant un mois.
Ah, c'est bien.
Après, on a le mahonia que tout le monde connaît. Il pique un petit peu, mais c'est très beau, c'est très rustique. Pareil, ça fait une grappe jaune, c'est très très joli. Une feuille verte un peu brillante. C'est sympathique, on peut le mettre plutôt en isolé ou dans une haie mélangée avec d'autres arbustes.
Oui, pour mélanger les couleurs, comme
tout
vous disiez,
fait,
on
oui.
a du rouge, du jaune, du blanc. Donc de quoi faire des jolis ouais. massifs et des jolis haies.
Après, on a le laurier rose qui s'adapte bien maintenant à notre région, vu le changement climatique. Laurier rose, l'avantage du laurier rose, c'est qu'on peut le mettre en bac aussi. On fait des haies avec, on peut mélanger. Mais bon, la floraison commence du mois de juin jusqu'au gelé. Donc, on a des fleurs toute la saison.
Mais il me semble qu'il faut tout de même faire attention avec le laurier rose puisque les feuilles sont quelque peu nuisibles.
C'est toxique, le laurier rose. Mmh. C'est sûr que quand on les coupe, il faut mettre des gants.
Et bien faire attention avec les enfants.
Tout à fait. Notamment. Il ne faut pas que les enfants s'amusent avec les feuilles, les mettent directement sur la bouche ou quoi. Ce n'est pas recommandé, même pour les animaux d'ailleurs.
Voilà, donc c'est à noter pour les gens qui ont des enfants ou des animaux.
Tout à fait.
C'est très beau les lauriers roses, mais faites attention.
Laurier amande aussi, qui est, il est très connu, il y en a beaucoup dans la région, qu'on peut planter en haie, ça pousse très haut aussi. On peut mettre en isolé, taillé aussi en arrondi, en carré. C'est un très bel arbuste qui pousse très bien, qui ne demande pas beaucoup d'eau non plus.
Alors, une petite question pour les personnes qui sont comme moi, peu portées sur la botanique. Laurier thym, laurier amandier, laurier rose, quelle différence et pourquoi les termes se ressemblent autant ?
Après, c'est, on va dire laurier amande, il y a plusieurs lauriers amandes. Après, vous avez laurier du Caucase où la feuille est beaucoup plus étroite et plus verte, qui est encore plus rustique que laurier amande. Mais après, ce sont simplement la famille. Quoi. Vous avez le laurier thym, la feuille est beaucoup plus petite, beaucoup plus vert foncé. C'est au niveau des familles. Laurier amande, c'est du persistant. Tout ce que je vous ai dit là, en fait, ce sont des arbustes persistants qui gardent leur feuillage.
Donc persistant, c'est ça, c'est qu'ils gardent leur feuillage voilà. pendant l'hiver.
Tout à fait. Après, voilà. on a les arbustes caduques qui perdent leurs feuilles à partir du mois de décembre et qui font le feuillage à partir du mois de mars.
Mais si vous êtes comme moi, vous coucherez moins bête ce soir. Voilà. On poursuit avec peut-être les arbustes encore, Serge ?
Oui, après on a dans les arbustes à fleurs qui fleurissent actuellement, donc le forsythia que tout le monde connaît, hein, qui est tout jaune, qu'on met en isolé, qu'on peut mettre dans une haie champêtre, c'est très joli aussi, avec le cognacier du Japon qui a fini sa floraison pratiquement à certains endroits, parce que je vois que sur Esparron, ils sont encore en fleurs. Cognacier du Japon, qui est très beau aussi dans des champêtres pour les papillons, tout ça, les abeilles. Groseilles à fleurs qui vont commencer à fleurir. Les kérias. Kérias ou corettes du Japon, c'est les petites fleurs pomponnettes qui sont jaunes ou orangées en fait. Après, il y a le lilas qui va commencer à fleurir dans pas longtemps.
Ça, c'est joli le lilas, moi j'aime bien.
Le lilas et le Prunus pissardi qui a fini pratiquement la floraison, où le feuillage est après rouge, très magnifique comme arbuste. L'aubépine aussi est très beau, qui est très connu. Et on ne plante pas beaucoup dans les jardins, c'est dommage. C'est très rustique, qui ne demande pas beaucoup d'eau. Tamaris aussi, très beau. Tamaris printanier, petite fleur très très petite dans le rose mauve. On a la coronille qui fleurit actuellement dans du jaune, très très joli aussi. Cerisier à fleurs, très beau dans le rose. Céanote plutôt dans le bleu. Colvidia dans le blanc. Arbre de Judée qui va commencer aussi à fleurir dans pas très longtemps. Pommier à fleurs, très joli. Tous ces arbres que je vous ai cités là, on peut les mélanger avec les arbustes qu'on a vus en premier pour faire des haies différentes. On peut planter Nelleagnus, un prunus, intercalé pour faire des haies vives pour que ça ressorte au niveau de la couleur. Parce que je pense que les haies, quand on plante des haies toutes vertes, au bout de 3-4 ans, on va s'en lasser au bout de quelques années, c'est pas très agréable. Donc il vaut mieux mettre un peu de la couleur dedans pour que ça soit plus joli.
Tout à fait. Et tout ce que vous nous avez cité, ça se trouve en magasin de jardinage ou est-ce qu'il y a des endroits spécifiques où trouver des arbustes et des arbres ?
Oui, en jardinerie, on trouve ça. C'est sûr que les prix sont un peu plus élevés après.
Oui.
Des fois, je pense qu'il faut faire le déplacement, aller sur l'extérieur et trouver ça moins cher.
Comme vous dites, aller vers l'extérieur, c'est-à-dire ?
Chez des producteurs, en fait.
D'accord.
Chez des producteurs où on trouve directement au marché de, on va dire au marché de Carpentras, où on a des gens, des pépiniéristes qui sont là à des prix très abordables, quoi.
Donc le message est passé, vous saurez que vous pourrez aller faire un petit tour à Carpentras pour trouver de quoi alimenter, enfin du moins planter dans votre jardin pour qu'il soit coloré. Continue nos aventures au jardin avec cette fois-ci les plantes vivaces pour embellir encore une fois votre jardin avec des couleurs. Serge, quelles plantes vivaces peut-on planter ?
Actuellement, nous avons les corbeilles d'argent qui sont jaunes, très jolies. Corbeilles d'or aussi, dans le blanc, très jolies aussi. Nous avons les saxifrages où on trouve plusieurs couleurs dans le rose, dans le rouge. Les urbietta, très jolies. Dans de la vivace, qui va retomber sur vos petits murets, aux petites balconnières. Armeria, c'est plutôt une touffe un peu comme du gazon, avec des petites boules dans le rouge, rose et le mauve aussi. Après, on va passer dans les vivaces qui vont fleurir plutôt dans l'été, magnifique gaillarde qui va fleurir pratiquement tout l'été. L'ogora aussi, où on a plusieurs couleurs, dans le blanc, le rose, le rouge. Et le Rudbeckia qui est magnifique pour moi parce qu'il y a du jaune et du noir intérieur avec du mauve et du noir aussi qui fleurit pratiquement tout l'été, très beau. Le Forbe aussi, c'est une nouvelle plante là, qui est très très jolie. On en voit de très belles au rond-point de Forcalquier quand on arrive, ils sont magnifiques. La Gattea aussi, c'est dans le bleu, très jolie comme fleur, pareil dans de la vivace. Géranium vivace qui est connu, le romarin bien sûr. La Véronique. Et le ficoïde aussi, qui fleurit tout l'été. Tout ça, on est dans des valeurs sûres. Ce sont des plantes que vous pouvez trouver sur la route de Leclerc, à la serre des Guintrans aussi, parce que ce sont des producteurs à des prix très, très intéressants.
Mais alors, c'est étonnant dans notre région que les plantes vivaces subsistent comme ça pendant l'été, malgré les chaleurs.
Mais ça, ce sont des plantes en fait, que je vous ai énoncées qui résistent très bien à la chaleur.
Donc là encore, adaptées, Serge,
bien
vous adapté, nous faites...
Bien adaptées à la région. Et après, bon, en fin de saison, les tiges vont complètement sécher. On le voit, la plante va se dégarnir. On va couper tout ça pratiquement à ras et ça repart au printemps d'après.
D'accord, donc c'est extrêmement pratique pour les gens qui n'ont pas nécessairement la main très verte.
Tout à fait. Enfin, moi, je conseille toujours d'essayer de planter beaucoup de vivaces parce que ce sont des valeurs sûres, on va dire.
Puis ça permet de couvrir aussi pas mal d'espace, les vivaces.
Oui, tout à fait. Je veux dire, quand on plante une gaillarde, ça couvre pratiquement des fois presque 1 mètre carré. Ça fait de très belles touffes, hein.
Puis on peut également faire en sorte que ça court sur les pergolas ou les choses comme ça aussi.
Oui, là après, on n'est pas dans ce style de plante. Pour couvrir les pergolas, on y reviendra. Il y a des hypomées, il y a des gobées, ça ce sont des plantes annuelles. qu'on fait des petites potées. Et maintenant, on peut commencer à les mettre en pleine terre, qui vont monter à 3-4 mètres, qui va fleurir tout l'été. C'est magnifique.
Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'une plante annuelle ?
Plante annuelle, c'est une plante qui fleurit qu'une année, en fait. En fin de saison, elle meurt.
Elle porte l'explication dans son nom, donc.
Voilà.
Et ça, c'est bien pour le jardin, les plantes annuelles ?
Oui, c'est joli. Bon, c'est rapport qualité-prix. Enfin, ce que je vous ai énoncé là, c'était des plantes vivaces, hein, d'abord.
Mm-hmm.
Et là, on va passer dans la plante annuelle. Les plantes annuelles, c'est ce qui fleurit, en fait, qu'une saison. Ça va être les bégonias, les impatiens, les fuchsias. Ceux-là, d'abord, il va falloir les mettre plutôt à l'ombre. C'est des plantes plus d'ombre, on va dire. Après, on va passer dans les œillets d'Inde, pétunia, surfinia, géranium, dipladenia, dimorphoteca, ficoïde, portulaca et gazenia. Tout ça, ce sont des plantes de plein soleil. Bon, il y en a d'autres, je ne vous les cite pas toutes parce que... Mais donc avec ça, ce sont des plantes, les œillets d'Inde, vous en avez, je pense, ça coûte, on va dire, grosso modo, les 10 à 0,80, un petit pot d'œillets d'Inde, 1 euro maximum.
Oui, donc ça vaut le coup pour...
Mais l'avantage de l'œillet d'Inde, moi j'adore cette couleur-là, parce qu'il y a du jaune, de l'oranger, du jaune et noir, mais ça va fleurir de maintenant jusqu'au mois de décembre quand même.
Oh, bel investissement donc à ce prix-là.
C'est très joli, ça ressort très bien sur le gazon. Dans un coin bien précis, on peut faire un bel arrondi comme on avait dit la première fois,
mm-hmm.
Avec du relief et ça ressort très très bien, c'est très très beau.
Donc ça, vous me disiez que ces plantes annuelles, notamment les œillets d'Inde, on les plante partout, c'est-à-dire donc dans des massifs, dans des pots, mais aussi dans des jardinières.
Tout à fait, on peut mettre ça dans les pots, dans les jardinières, comme les surfinières retombants, les géraniums, les dipladenias, ce sont des fleurs rouges avec de la feuille très verte, qui fleurit tout l'été aussi. Et après, on a du ficoïde. Le ficoïde, c'est une plante grasse qui fleurit tout l'été, qui ne demande pratiquement pas d'arrosage. Ça, c'est intéressant. Vous l'arrosez, on va dire, allez, une fois par semaine, ça suffit. Il faut pas trop, en fait, après, il faut pas trop arroser les plantes non plus, parce que quand on habitue à arroser les plantes tous les jours, c'est pas très bon, quoi.
Oui, donc il vaut mieux les priver pour éviter qu'elles ne ressentent la sécheresse par la suite.
Il vaut mieux les arroser en plein été un jour sur deux que tous les jours.
En plus, ça vous fait faire des économies d'eau, donc c'est pas mal.
De préférence, les arrosages le soir tard ou le matin bonne heure.
Oui, d'ailleurs, c'est conseillé dans les consignes pour éviter de perdre de l'eau. Donc, suivez bien les conseils de Serge, vous n'aurez pas à le regretter. Ça vous fera faire des économies et vos plantes en seront encore plus resplendissantes. On continue avec quoi, Serge ?
On va parler des traitements et des engrais bio. On va parler d'abord des traitements. Il faut surveiller ces traitements parce que maintenant, les rosiers ont commencé à bien bourgeonner. Il y a des feuilles, ça commence à pousser de partout. Peut-être faire un traitement total sur les rosés. Bien sûr, dans du bio, c'est plus intéressant. Vous allez me dire pourquoi. Les traitements bio, on préserve la nature déjà, les abeilles et tout ce qui est à côté. C'est très important, je pense. Il faut toujours très bien, je suis toujours très à cheval là-dessus, respecter les dosages. On dit toujours, on va mettre une dose de plus, c'est mieux. C'est pas vrai, ça risque de brûler la plante, donc c'est pas recommandé.
Même avec le bio.
Même avec le bio. En engrais, pareil. Mettre des engrais régulièrement sur les plantes que vous avez dans les pots, parce que malheureusement, dans les pots, les engrais, il en faut, parce que le terreau s'appauvrit. Et pour toute une saison, on va dire au moins une fois tous les 15 jours, apporter de l'engrais en liquide, c'est bien dilué à l'eau. Mais bien respecter les dosages, pareil, parce qu'autrement, ça brûle.
Encore une fois, on va clarifier les termes pour les moins expérimentés parmi nous. C'est quoi la différence entre un traitement et un engrais ?
Et traitement, c'est traitement qu'on fait sur un feuillage pour soigner les maladies, la tache noire, l'oïdium, les pucerons, les chenilles, tout ce style de bête qu'il peut y avoir, toutes ces maladies. Donc, on va traiter le feuillage et qui va soigner donc, la plante. Les engrais, c'est ce qui va aller directement à la racine, en fait, qui va apporter à la plante, qui va apporter la nourriture sur le feuillage, les fleurs, qui va permettre de nourrir la plante et qu'elle soit plus jolie, quoi.
Donc le traitement, c'est un soin, et l'engrais,
ça nourrit la plante.
D'accord. Bon, comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour les traitements et les engrais ?
Pensez aussi aux bandes de glu autour des arbres fruitiers. C'est très important parce que ça va commencer les pucerons, toutes les fourmis, tout ça vont commencer à monter. Donc vous mettez, vous prenez un mètre du sol et vous mettez une bande de glu autour de votre tronc.
La bande, elle doit être large ?
Il faut qu'elle fasse au moins entre 15 et 20 cm, c'est bien.
Et on l'applique avec quoi, cette bande de glu ?
En fait, ce qu'on voit dans le commerce, déjà, il y a déjà de la glu dessous. Autrement, on peut acheter tout simplement un petit pot de glu et la mettre à la spatule. C'est pareil. C'est peut-être encore moins cher. C'est très important et il faut y penser à le faire, je pense. C'est très bien.
Et on peut le faire sur tous les arbustes fruitiers ?
Tous les arbres fruitiers, c'est très important, oui. Les arbres fruitiers. Donc on va être aussi, la tonte du gazon a commencé. Donc je pense que vu la saison, vous avez pensé à mettre vos engrais parce qu'il a plu et il va peut-être encore pleuvoir, c'est bien d'en remettre.
Comme on a parlé, ce dont on a parlé il y a deux semaines.
Récemment, oui. Mm-hmm. Pensez à faire affûter vos lames de tondeuse, c'est très très important.
Où est-ce qu'on peut aller les faire affûter ces lames ?
Oh, on peut le faire soi-même, on va dire.
Avec le matériel nécessaire quand même.
Matériel, oui, une grosse lime... Une bonne lime pour à ferraille, on peut autrement, il y a des gens qui font ça, je veux dire, marchands de motoculteurs, tout ça, ils font tout ça. Ne jamais, je suis toujours très à cheval sur les tondeuses, quand on tond un gazon, s'il y a quoi que ce soit que la tondeuse vient bourrer, on va dire bourrer, ça veut dire qu'il y a de l'herbe qui se met dessous, ne jamais mettre la main dessous la tondeuse.
Pour éviter les accidents.
Il faut toujours arrêter la tondeuse et débrancher l'antiparasite de la bougie devant. Moi, j'ai vu des accidents terribles. Donc ça, c'est très important. Il faut faire très attention. C'est dangereux.
Et l'herbe, on la tond, à ras, ou est-ce qu'on laisse quand même respirer ?
Pas trop. La première tonte, on va dire oui, on peut tondre un petit peu plus ras et après, pas trop ras. On va tondre entre 7 et 10 cm, voilà, pas plus. C'est bien si on a une tondeuse mulching, parce que si on tond tous les 8 jours, on ramasse pratiquement l'herbe. Vous allez me dire, c'est quoi une tondeuse mulching ?
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, Serge.
Une tondeuse mulching, en fait le broie l'herbe pratiquement, mm-hmm. Donc vous ne ramassez pas l'herbe. Et l'avantage que vous avez, c'est que ça vous fait un engrais organique.
Ah, de l'économie de moyens ?
De l'économie, vous n'achetez plus d'engrais. Bon, il peut y avoir quelques particules de grosses touffes d'herbe. Là, vous les ramassez, mais autrement, pratiquement, si vous faites ça régulièrement, vous n'avez plus besoin de ramasser le gazon.
Pour les plus fainéants d'entre nous, c'est un bon conseil. Merci, Serge.
Oui, tout à fait.
On continue avec le gazon ou est-ce que vous avez terminé avec vos bons conseils ?
Non, on peut continuer avec le gazon. Donc le gazon, il faut continuer dans les tontes à peu près. Maintenant, je pense que ça, on va démarrer tous les 8-10 jours faire la tonte du gazon et surveiller vos arrosages parce que s'il commence le temps à être sec, vos arrosages automatiques, régler vos arrosages, contrôler toutes vos vannes, tout le circuit, quoi. Voir si tout va bien, si tout se passe bien. Après, on passera dans l'arrosage d'été. Je vous indiquerai le temps d'arrosage pour avoir un beau gazon, mm-hmm. Bien sûr.
Et ce n'est pas trop dangereux pour l'instant de relancer la machinerie pour l'arrosage alors qu'il ne fait encore pas très très chaud ?
Non, ben là, je pense qu'il faut encore attendre une quinzaine de jours parce que là, avec les pluies qu'il a fait, ça devrait aller. Mm-hmm. Mais déjà, préparer à mettre en route, voir s'il n'y a rien d'arroseur de cassé ou de re-régler les arroseurs en fait. De remettre le circuit en route pour contrôler tout ce qui a contrôlé, quoi.
D'accord, faire les vérifications avant de se lancer dans l'arrosage de l'été, en fait.
Tout à fait, oui. Donc, la prochaine émission, on va parler du semis du gazon, qui est très important pour nous, je pense. Les arbustes d'été, les plantes grasses aussi. On peut mettre beaucoup de plantes grasses dans notre jardin qui ne demandent pas beaucoup d'eau, donc c'est très intéressant. Faites ressortir vos massifs avec des écorces de pin ou galets. Les plantes économiques en eau, ça aussi c'est bien pour notre région. Et j'ai un très beau sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est les bassins en kit, la construction et les conseils. Un bassin dans un jardin, un petit bassin qui ne coûte pas très cher, en fait, c'est très beau.
Oui, ça amène un petit peu de bleu.
Avec un petit bruit d'eau, une petite cascade et tout. C'est très agréable. C'est super sympathique. On parlera de tout ça. Moi, je tenais à remercier Fréquence Mistral, Alexia, qui me reçoit régulièrement, tous les 15 jours, pour cette belle émission de jardin qui va continuer. On racontera tout le temps de super conseils pour le jardin, pour les jardiniers, les jardinières et les amateurs aussi.
Ben merci à vous, Serge. Par contre, on va peut-être rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent vous joindre s'ils ont des questions.
Oui, tout à fait.
Peut-être rappeler votre numéro.
Vous pouvez me joindre au 06 23 50 94 97 pour des conseils, des renseignements, et je serai là pour vous renseigner.
Et pour les plus jeunes d'entre nous, vous pouvez également poser vos questions sur notre page Facebook Fréquence Mistral Manosque. N'hésitez pas, nous restons à votre disposition. Merci beaucoup Serge, bonne journée, et on se retrouve dans 2 semaines.
Merci Alexia.
Au revoir. Thank you.